Vous écoutez France Culture.
Des petites filles qui cueillent des fraises sous un filet près d'une forêt. Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose la rediffusion de Guy Debord, Ni retour, ni réconciliation, un essai radiophonique par Vincent Kaufmann. Vincent Kaufmann est l'auteur de l'ouvrage Guy Debord, la révolution au service de la poésie, paru à l'automne 2001 aux éditions Fayard. Il se sert ce soir de l'outil radiophonique pour prolonger l'exploration de la vie et de l'œuvre du penseur. Alors comment entendre Guy Debord? Quelle voix? Quels sons ont compté pour lui? Bon voyage.
La création.
Tempo. Atelier de création radiophonique. Guy Debord, ni retour, ni réconciliation. Par Vincent Kaufmann.
Où le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent, les éternels regardent.
Guy Debord à la radio. Il faudrait faire une émission sur la voix de Debord, ou avec sa voix. Ce serait une émission sur un homme qui n'est jamais passé à la radio, qui a systématiquement refusé de s'y exprimer. Il faudrait faire une émission sur la voix de Debord, et une autre, la même, sur son refus d'émettre, sur son refus de jouer le jeu des médias, celui de la radio, mais aussi celui de la télévision, ou encore celui de la presse écrite. Jamais d'intervention, jamais d'entretien, jamais d'apparition. Silence radio. Debord est opposable à tous les intellectuels de sa génération et à ceux de quelques autres générations qui frétillent comme des toutous dès qu'ils reniflent un micro ou une caméra. Lorsqu'il dissout l'international situationniste en 1971, c'est par goût de la clandestinité, pour confirmer son refus de paraître ou de comparaître, pour confirmer son défi, beau comme cette déclaration qui met fin à l'existence de l'international situationniste qu'il a animé pendant plus de 12 ans.
Jamais on ne nous a vu mêler aux affaires, aux rivalités, aux fréquentations des politiciens les plus gauchistes ou de l'intelligentsia la plus avancée. Et maintenant que nous pouvons nous flatter d'avoir acquis parmi cette canaille la plus révoltante célébrité, nous allons devenir encore plus inaccessibles. Plus nos thèses seront fameuses, plus nous serons nous-mêmes obscurs.
C'est cela qu'il aurait pu dire, qu'il n'a pas jugé bon de dire, ni à la radio, ni ailleurs. Il s'est contenté de l'écrire. Il a préféré garder ses distances. Ce n'est évidemment pas sa voix qu'on vient d'entendre. 30 ans ont passé, mais je ne me lasse pas de cette affirmation.
Nous allons devenir encore plus inaccessibles. Plus nos têtes seront fameuses, plus nous serons nous-mêmes obscurs.
Les intellectuels, ils les appelaient les employés aux écritures. Il faudrait en somme une radiophonie de Debord pour prendre la mesure de sa voix et de ce qu'il y a d'irréconciliable en elle, pour prendre la mesure du refus qu'elle porte ou qui la porte. Pour qu'on l'écoute, pour qu'on en entende l'intensité, la violence, tranquille, obstinée, mais aussi la douceur, la mélancolie. De toute façon, on n'a pas le choix. La voix de Guy Debord, c'est la trace la plus physique qui nous reste de lui. On peut l'entendre en regardant ses films, et on l'entendra alors presque exclusivement, présence aveuglante. De lui, de son corps, Debord n'a laissé que peu de traces. Pas d'archives, par exemple, d'un quelconque passage à la radio ou à la télévision, puisqu'il n'y a justement jamais passé. Plus personne ne peut désormais voir le corps de Debord se mouvoir, traverser l'espace. Sa mobilité, sa passion du déplacement, du voyage ou de la dérive nous échappent. Seule sa voix bouge encore. Il n'a laissé que quelques photos, dont certaines sont intentionnellement rayées, abîmées. Comme d'autres soignent leur image, Debord a soigné sa défiguration. Il a su refuser de paraître et de comparaître. Et il a soigneusement choisi les traces qu'il a voulu laisser. Il a donné à cette injonction à paraître et à comparaître le nom de Société du spectacle. Et il a refusé cette société jusqu'au bout. Parce que c'est une société où tout n'est qu'apparence. Parce que c'est une société qui détruit toute forme authentique de vie. Par soumission absolue à l'ordre économique. C'est là son point de départ et aussi son point d'arrivée. Il s'en est tenu à ce refus. La voix de Guy Debord n'est pas une apparence. Elle est au contraire un moyen de résister aux apparences. C'est en elle qu'il a toujours concentré sa résistance. À sa mort, en 1994, ses cendres sont dispersées dans la Seine, depuis la pointe du Vert-Galant où il aimait passer du temps dans sa jeunesse. Jusqu'au bout, il a su effacer ses traces. Rien n'est plus faux que d'imaginer un tombeau pour Guy Debord. Une voix, ça ne laisse pas de traces, excepté chez ceux qui l'ont entendue.
Thank you.
Il faudrait une émission sur la voix de Guy Debord, puisqu'il a si souvent choisi d'être présent par la voix plutôt que par l'image. Dans ses films, par exemple, il a toujours donné peu à voir et beaucoup à entendre. Le premier, Hurlement en faveur de Sade, est un film sans images, un montage de phrases proférées sur fond d'écran blanc, alternant avec des écrans noirs. L'envers exact du cinéma muet, du cinéma hurlant. L'écran noir, c'est la carte de visite de Debord, l'emblème de sa carrière de cinéaste.
Au moment où la projection allait commencer, Guy Ernest Debord avait monté sur la scène pour prononcer quelques mots d'introduction. Il aurait simplement dit « Il n'y a pas de film, le cinéma est mort, il ne peut plus avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. »
Mais hurlant très doucement, de très loin. Et ici, par l'intermédiaire de la voix d'un complice. Ce n'est pas la voix de Debord qu'on vient d'entendre, pas encore. Il continue de garder ses distances. Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous le voulez, au débat. Passons à la voix de Debord.
Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient à mes yeux une telle conduite et je vais les dire. Tout d'abord, il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès. Et dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses. Et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence.
Ah oui, c'est quand même autre chose. C'est assez gonflé. Chers spectateurs, je n'ai rien à vous dire. Je vous réfute. J'aime ce ton. D'un film à l'autre, la voix de Debord sera de plus en plus présente. C'est elle qui vit dans ses films, c'est elle qui bouge, c'est elle qui passe. Et c'est elle qui reste. C'est elle aussi qui donne à ses films leur rythme. Elle en est le pouls, une sorte de scansion fondamentale, ferme, régulière, pleine de chaleur, de colère, de violence et de tristesse maîtrisée. Rien ne la fait dévier de son cours. Une voix qui ne change pratiquement jamais de ton. Pas d'effusion, rien de sentimental. Quelque chose d'impersonnel. De la musique baroque, en somme. Et dans le miroir glacé de l'écran, les images, elles, souvent ne bougent pas. Ce ne sont souvent que des photos, ou alors des citations, des fragments d'archives ou de films de fiction détournés. Cinéma en arrêt devant la voix, comme pétrifié par elle. Régression du cinématographique au radiophonique. Nous y voilà. On n'a rien vu des films de Debord avant de les avoir entendus. On a pu s'en apercevoir récemment, depuis qu'il est de nouveau possible de les voir. Voir les films de Debord, c'est entendre sa voix. Une voix impersonnelle, reconnaissable entre toutes, opposable à toutes. On reconnaît la voix de Debord à ce timbre à la fois impersonnel et mélancolique, comme s'il était détaché de sa personne, détaché de ce qu'il dit. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'échappement toujours un peu trop pressé de ceux qui savent que leur temps d'antenne leur est chichement compté. Debord prend tout son temps. Il l'impose. Et on la reconnaît entre toutes les autres, c'est sa force. Il y a en elle une qualité, une netteté, une gravité, une fermeté, une résolution, quelque chose d'inébranlable et de souverain qui font qu'elle s'impose, qu'on l'écoute. Elle tranche avec les autres, elle est tranchante, et elle l'est d'emblée, comme par exemple dans cette histoire de l'Internationale lettriste que Debord enregistre en 1956 avec ses complices lettristes. C'était au Tonneau d'Or, un petit café de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève.
Participation lettriste au congrès d'Alba, où les groupements progressistes de huit nations sont représentés.
Adoption par le congrès du mot d'ordre de l'urbanisme unitaire.
Volman, j'écris propre, récit détourné.
Debord, théorie de la dérive.
Une seule entreprise nous paraît digne de considération. C'est la mise au point d'un divertissement intégral. L'aventurier est celui qui fait arriver les aventures, plus que celui à qui les aventures arrivent. La construction de situations sera la réalisation continue d'un grand jeu délibérément choisi. Le passage de l'un à l'autre de ces décors et de ces conflits dont les personnages d'une tragédie mouraient en 24 heures. Mais le temps de vivre ne manquera plus. À cette synthèse devront concourir une critique du comportement, un urbanisme influentiel, une technique des ambiances et des rapports dont nous connaissons les premiers principes.
Il faudra réinventer en permanence l'attraction souveraine que Charles Fourier désignait dans le libre jeu des passions.
Après quelques années passées à ne rien faire au sens commun du terme, nous pouvons parler de notre attitude sociale d'avant-garde, puisque dans une société encore provisoirement fondée sur la production, nous n'avons voulu nous préoccuper sérieusement que des loisirs.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. L'adjectif psychogéographique, conservant d'un assez plaisant vague, peut donc s'appliquer aux données établies par ce genre d'investigation, aux résultats de leur influence sur les sentiments humains, et même, plus généralement, à toute situation ou toute conduite qui paraissent relever du même esprit de découverte.
Oui, là on la reconnaît très bien. Et à l'entendre parmi les voix de ceux qui étaient alors ses complices, un Gilles Volman, un Jacques Fillon et bien d'autres encore, c'est aussi un fragment de l'histoire d'un groupe qu'on entend. Un fragment de l'histoire de l'Internationale lettriste, avec la place exacte que chacun y occupait.
Après l'incomplète libération de 1944, la réaction intellectuelle et artistique se déchaîne partout. La peinture abstraite, simple moment d'une évolution picturale moderne où elle n'occupe qu'une place assez ingrate, est présentée par tous les moyens publicitaires comme le fondement d'une nouvelle esthétique. L'alexandrin est voué à une renaissance prolétarienne dont le prolétariat se serait passé comme forme culturelle avec autant d'aisance qu'il se passera du quadrige et de la trirème comme moyen de transport. Des sous-produits de l'écriture qui a fait scandale et que l'on n'avait pas lu 20 ans auparavant obtiennent une admiration éphémère mais retentissante. Poésie de Prévert ou de Char, prose de Gracq, théâtre de l'atroce crétin Pichette, tous les autres. Le cinéma, où les divers procédés de mise en scène anecdotique sont usés jusqu'à la corde, acclame son avenir dans le plagiaire d'Essica, trouve du nouveau, de l'exotisme plutôt, dans quelques films italiens où la misère a imposé un style de tournage un peu différent des habitudes hollywoodiennes, mais si loin après Eisenstein. On sait de plus à quel laborieux remaniement phénoménologique ce livre des professeurs qui, par ailleurs, ne dansent pas dans des caves.
Vous vous trouvez dans un café avec Debord et ses amis. Les discussions sont animées, le vin coule à flot. Vous vous éloignez un peu, vous descendez par exemple au sous-sol pour passer un coup de téléphone. Le bruit des conversations s'estompe. Et tout à coup, vous vous rendez compte que la seule chose que vous continuez d'entendre, c'est la voix de Debord. Pourtant, il ne parlait pas plus fort que les autres. Il n'élevait pas la voix.
Justifier aussi peu que ce soit
maître de ce que cette époque aura écrit ou filmé, il faudrait un jour pouvoir prétendre qu'il n'y a eu littéralement rien d'autre, et par là même que rien d'autre, on ne sait trop pourquoi, n'était possible. Eh bien, cette excuse embarrassée, à moi seul, je suffirais à l'anéantir par l'exemple. Et comme je n'aurais eu besoin d'y consacrer que fort peu de temps et de peine, rien ne m'a paru devoir me faire renoncer à une telle satisfaction. Il n'est pas si naturel qu'on voudrait bien le croire aujourd'hui d'attendre de n'importe qui, parmi ceux dont le métier est d'avoir la parole dans les conditions présentes, qu'il apporte ici ou là des nouveautés révolutionnaires. Une telle capacité n'appartient évidemment qu'à celui qui a rencontré partout l'hostilité et la persécution, et non point les crédits de l'État. Et même, plus profondément, quelle que soit la complicité générale pour faire le silence là-dessus, on peut affirmer avec certitude qu'aucune réelle contestation ne saurait être portée par des individus qui, en l'exhibant, sont devenus quelque peu plus élevés socialement qu'ils ne l'auraient été en s'en abstenant. Tout cela ne fait qu'imiter l'exemple bien connu de ce florissant personnel syndical et politique toujours prêt à prolonger d'un millénaire la plainte du prolétaire à seule fin de lui conserver un défenseur. Pour ma part, si j'ai pu être si déplorable dans le cinéma, c'est parce que j'ai été grandement plus criminel ailleurs. De prime abord, j'ai trouvé bon de m'adonner au renversement de la société, et j'ai agi en conséquence. J'ai pris ce parti dans un moment où presque tous croyaient que l'infamie existante, dans sa version bourgeoise ou dans sa version bureaucratique, avait le plus bel avenir. Et depuis lors, je n'ai pas, comme les autres, changé d'avis une ou plusieurs fois avec le changement des temps. Ce sont plutôt les temps qui ont changé selon mes avis. Il y a là de quoi déplaire aux contemporains. Ainsi donc, au lieu d'ajouter un film à des milliers de films quelconques, je préfère exposer ici pourquoi je ne ferai rien de tel. Ceci revient à remplacer les aventures futiles que compte le cinéma par l'examen d'un sujet important, moi-même.
L'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, versant notre infini sur le fil des mers. Les uns joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique au dangereux parfum. De n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mord, le soleil qui les cuivre, efface lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent. Pour partir, cœurs légers semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent. Et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ».
Et lorsqu'on cherche de bord dans un débat entre intellectuels d'avant-garde ou dans le séminaire d'un professeur spécialisé en thèse sur la vie quotidienne, on a de fortes chances de tomber sur un magnétophone. Il vous plante là, avec sa seule voix pour vous défier, pour ne pas vous saluer. Voix impersonnelle, comme détachée de sa personne. De bord a su être présent par la voix, mais il a su aussi être absent par la voix. Il excellait dans l'art des fausses apparitions comme dans celui des vraies disparitions. Parfois, la dérobade est encore plus radicale. Il ne s'agit même plus de sa voix, comme dans ce débat autour du surréalisme, où c'est son complice George Melanotte qui parle à sa place. En 1958, le surréalisme est devenu un sujet assez insignifiant pour que Debord choisisse de ne plus s'en mêler personnellement. Pour ses rares apparitions dans les milieux artistiques ou intellectuels, officiels, il s'est toujours efforcé de brouiller les cartes.
Le surréalisme aujourd'hui est parfaitement ennuyeux et réactionnaire. L'irrationnel qui a servi quelque temps contre les valeurs logiques dominantes sert à présent l'irrationalité dominante d'un régime toujours plus décomposé dont la confusion est l'arme idéologique primordiale. L'occultisme, la magie, la platitude humoristique, la passion d'un insolite toujours pareil à lui-même sont les déchets dont le surréalisme nous a encombrés dans sa longue vieillesse. Le surréalisme est maintenant mis en conserve et salué comme un beau scandale, indépassable par le conformisme d'une époque si usée que ses mouvements de libération même doivent être mangés au mythe.
D'entendre Guy Debord, porte-parole de l'international situationniste, interprété par George Melanotte. Cette intervention vous était offerte par le Cercle Ouvert.
Mais n'oubliez pas que le problème le plus urgent reste de combattre la dictature en France.
Ici, il n'intervient qu'à la fin, pour conclure. La voix de Debord est réduite à une signature. Comment dire plus clairement qu'il n'entend mêler la sienne ni à celle des professeurs en révolution et à leurs étudiants, ni à celle des quinquagénaires qui se croient toujours à l'époque de la révolution surréaliste. Politique du magnétophone, politique de la chaise vide, clandestinité, obscurité, c'est la même politique que dans les films de Debord.
Mais n'oubliez pas que le problème le plus urgent reste de combattre la dictature en France.
Il faudrait faire une émission radiophonique sur Debord, une émission qui rende compte de sa voix et aussi de son affinité avec le radiophonique. Après tout, la radio et lui sont à peu près contemporains. Ils ont grandi ensemble, puis vieilli ensemble. La radiodiffusion naît en 1920, Debord en 1931. Des années 30 jusqu'à la fin des années 50, le rôle de la radio est stratégique. Elle sert les oppresseurs, mais prépare aussi les libérations. Ceux qui gouvernent s'efforcent de la contrôler. Pendant une période somme toute assez courte, la politique s'est faite à coups d'appel, de voix, à coups de voix, qui portaient très loin, qui pouvaient toucher tout le monde. Auparavant, il fallait écrire. La politique se faisait avec les livres, puis avec les journaux. À la fin des années 50, c'est la télévision qui s'impose définitivement, emblème de la passivité et de la séparation, emblème ou symptôme de la société du spectacle. À la télévision, les politiciens soignent leur image et ne disent plus rien. Contorsion, grimace.
Il faut bien appeler action révolutionnaire. C'est la seule manière, c'est la seule méthode concrète. Et je crois que ce que j'ai écrit en 1960 manifeste non pas une ligne, mais une voie, un cheminement vers un certain horizon avec une certaine continuité à travers toutes sortes de discontinuités plus apparentes que réelles.
De Boer est né à une époque où la politique et la guerre se faisaient à coups de voix, de radiophonie. Et il a aimé la politique, la stratégie, la guerre, inoculation radiophonique. Une époque charnière qui hésite entre l'écrit et l'image et dans laquelle prend place toute l'œuvre de Boer. Comme à mi-chemin entre la littérature et le cinéma, défiant l'une comme l'autre. Littérature réduite à des exercices de détournement, cinéma privé d'images, réduit à la parole de Boer, elle-même transcrite dans des livres. Entre littérature et cinéma, Guy Boer a choisi la voie, elle lui est restée la voie.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale.
Boer fait partie de l'époque radio. Dans sa jeunesse, c'est elle aussi qui diffusait les chansons qu'on reprenait dans les cafés et dans les bars, les chansons que Boer a aimées. Plus tard, vers mai 68, avec ses complices, il les détourne, les recycle, les met au service de la Révolution, ou plus exactement à la place de la Révolution. Le détournement, c'est la Révolution. C'est la Révolution mise au service de la poésie. Revanche du radiophonique sur le télévisuel. Sur le spectacle.
Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Il appelait Mouloudji son cousin, parce qu'il leur est arrivé d'aimer les mêmes femmes. Il a aimé les femmes qui savaient chanter, qui aimaient chanter.
La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Guy Boer a beaucoup donné de la voix. Il a passé beaucoup de temps à parler. Il n'a recouru à l'écriture que de façon parcimonieuse. Il a peu écrit. Il n'a écrit que lorsqu'il le jugeait absolument nécessaire. L'écriture n'a jamais été pour lui une vocation, une fin en soi. Il n'a jamais cherché à réaliser une œuvre. C'est pourquoi tous ses livres sont parfaitement réussis. Ils sont concrets. Il réalise un objectif. Ce sont des armes choisies pour mener un combat.
Dans le petit nombre des choses qui m'ont plu et que j'ai su bien faire, ce qu'assurément j'ai su faire le mieux, c'est boire. Quoiqu'ayant beaucoup lu, j'ai bu davantage. J'ai écrit beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent, mais j'ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent.
Tous, ou presque, ils écrivent pour faire œuvre, pour laisser des traces. Ils fabriquent des monuments en espérant qu'un jour, ceux-ci seront au moins nationaux. De Boer, lui, a choisi le désœuvrement. Les plaisirs de la bouche et de la voix, plutôt que l'écriture.
Asger, tu peux aller boire un coup.
Il n'a jamais travaillé, jamais véritablement exercé de métier. S'il avait dû en exercer un, il aurait voulu être goûteur de vin, d'eau, de tout. Il savait très bien goûter. Ses considérations sur la falsification alimentaire ne tombent pas du ciel. On ne réalise pas une œuvre avec la bouche. On n'érige pas de monuments à coups de voix. La voix ne laisse pas de traces. Elle a lieu, puis elle tombe aussitôt dans le passé et l'oubli. C'est pourquoi Debord a aimé la voix plutôt que l'écriture, parce qu'il a aimé ce qui tombait dans le passé et l'oubli. Il a aimé l'écoulement du temps. Et la voix, c'est ce qui prend exactement le temps qu'il lui faut pour passer. Une voix, ça s'écoule.
Asger, tu peux aller boire un coup.
Pour passer le temps, pour passer dans le temps, dans son temps. Pour oublier et se faire oublier, il a surtout parlé et il a surtout bu.
La sensation de l'écoulement du temps a toujours été pour moi très vive et j'ai été attiré par elle, comme d'autres sont attirés par le vide ou par l'eau. En ce sens, j'ai aimé mon époque, qui aura vu se perdre toute sécurité existante et s'écouler toute chose de ce qui était socialement ordonné. Voilà des plaisirs que la pratique du plus grand art ne m'aurait pas donné.
Que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.
Il faudrait parler de ces voyages. Il y a de la voix dans les voyages. Lorsqu'il voyageait en train, il arrivait à Debord de réciter les poèmes qu'il savait par cœur, les poèmes qu'il aimait, qui comptaient pour lui. Ceux de Baudelaire, de Nerval, d'Apollinaire, et parmi eux les plus mélancoliques, pour passer le temps et pour redoubler le passage du temps. Pour réciter des poèmes, il se rendait dans le couloir du train. C'était l'époque où les trains avaient encore des couloirs. Il ne les récitait pas à la cantonade, mais pour lui, ou pour ceux qui le rejoignaient et qui aimaient l'entendre. Exercice de mémoire, de remémoration, plaisir intime qu'on ne partage qu'avec des intimes, plaisir d'une réappropriation de la poésie, plaisir de la poésie passée dans la vie. La voix lui redonne vie, la fait passer dans la vie, la soustrait aux livres, aux bibliothèques, aux commentaires savants, aux représentations, aux spectacles. Un peu d'histoire, cela fait sérieux. De 1951 à 1958, après un film sans images, plus rien. Pas de livre, même plus de film sans images. La carrière dans le désœuvrement s'annonce brillante. Pendant tout ce temps, Debord se spécialise dans l'art de parler, de boire et d'aimer. Parfois, il dérive à travers les quartiers les plus insolites de Paris, en explorateur urbain se réappropriant la ville. Il animera aussi, dès 1954, une minuscule revue intitulée Potlatch, drôle, irrévérencieuse, dans laquelle les dissertations de normaliens style temps moderne sont remplacées par les insultes les plus définitives, les plus courtes et donc les plus belles. Une revue pour donner de la voix, guerrière. L'insulte rapproche l'écrit de la voix. Guy Debord et ses premiers complices fondent l'International Lettriste en 1952, après avoir rompu avec le lettrisme officiel, si on peut dire, animé par Isidore Isou. Vertige de la parodie. C'est à peine un groupe, c'est une avant-garde résolue à ne pas se manifester. Ce n'est évidemment pas une internationale et elle n'a plus rien de lettriste. L'International Lettriste s'en fout du lettrisme. Elle s'en fout de la lettre, ou des lettres, en général. Elle est du côté de l'ivresse, du désœuvrement et de la voix. Elle est du côté du désœuvrement, mais ce n'est pas une raison pour négliger sa propre histoire, au contraire.
En 1947, la poésie onomatopéique marquait la première intervention scandaleuse d'un nouveau courant d'idées. Un groupe réuni sous la dénomination de lettristes, à cause de la poétique qu'il proclamait, devait dans les années qui suivirent étendre son champ d'action au roman, à la peinture 1950 et au cinéma 1951. Dadaïsme en positif, cette époque du mouvement opéra la critique de l'évolution formelle des disciplines esthétiques dans un souci exclusif de nouveauté qui n'était pas, comme on nous l'a trop facilement objecté, goût de l'originalité à tout prix, mais volonté de se soumettre les mécanismes de l'invention. L'élargissement dialectiquement prévisible des objectifs du lettrisme, marqué par de vives luttes de factions et l'exclusion de meneurs dépassés, devait situer le problème dans la seule utilisation de ces mécanismes à des fins passionnelles. L'International lettriste, fondée en juin 1952, a groupé la tendance extrémiste du mouvement.
Internationaux ou non, les lettristes n'ont pas été des hommes de lettres, ne le sont jamais devenus. Ils ont vécu plutôt qu'écrit et fréquenté les bas-fonds plutôt que les académies. Il y avait parmi eux ou autour d'eux des petits voleurs, des déserteurs et des mouvantes fugueuses. Voyous et voyelles, une fois de plus, on est du côté de la voix.
Resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel.
Debord et ses compagnons se sont spécialisés dans l'art de la dérive, c'est-à-dire dans l'exploration de la ville. Leur art, ils l'ont appelé psychogéographie. Déambulation collective, sans but, si ce n'est la perception des différences d'ambiance et d'atmosphère d'un quartier à l'autre. Expérience de l'espace et du temps. Expérience de la mobilité, qui ne sera reprise ou déposée dans aucune œuvre, dans aucun monument. La dérive, c'est une expérience du désœuvrement. Elle ne laisse pas de traces.
Piranèse est psychogéographique dans l'escalier. Claude Lorrain est psychogéographique dans la mise en présence d'un quartier de palais et de la mer. Le facteur Cheval est psychogéographique dans l'architecture. Jacques Vacher est psychogéographique dans l'habillement. Louis II de Bavière est psychogéographique dans la royauté. Jacques Léventreur est probablement psychogéographique dans l'amour. Saint-Just est un peu psychogéographique dans la politique, la terreur est dépaysante.
Les grandes villes sont favorables à la distraction, que nous appelons dérive. La dérive est une technique du déplacement sans but. Elle se fonde sur l'influence du décor.
Gilly Vin formule en 1953 une théorie des quartiers état d'âme.
Le quartier sinistre n'aurait nul besoin de receler des dangers réels, tels que pièges, oubliettes ou mines. Il serait d'approche compliquée, affreusement décorée. Sifflets stridents, cloches d'alarme, sirènes périodiques la cadence irrégulière, sculptures monstrueuses, mobiles mécaniques la moteur, et peu éclairée la nuit, autant que violemment éclairée le jour par un emploi abusif du phénomène de réverbération. Au centre, la place du mobile épouvantable. La saturation du marché par un produit provoque la baisse de ce produit. L'enfant apprendrait, par l'exploration du quartier sinistre, à ne plus craindre les manifestations angoissantes de la vie, mais à s'en amuser. L'activité principale des habitants sera la dérive continue.
Mais c'est bien sûr aussi une expérience sonore, et c'est pourquoi justement elle ne laisse pas de traces. Imagine-t-on une ambiance, une atmosphère autrement qu'en termes sonores? Pour dériver, il faut savoir entendre plutôt que voir. La dérive est un art de l'écoute et non pas du regard.
Un cygne qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec
baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Ô, quand donc pleuvras-tu? Quand donneras-tu foudre ?»
Les dériveurs se passent d'inconscients. Ils préfèrent ce qu'il y a de plus secret, de plus étrange dans Paris. Ils préfèrent les étrangers et les étrangères. La dérive est une expérience de l'étranger et du même coup de la perte de soi.
Toutes les maisons sont belles. L'architecture doit devenir passionnante. Nous ne saurions prendre en considération des entreprises de construction plus restreintes.
Les constructeurs en sont perdus, mais d'inquiétantes pyramides résistent aux banalisations des agences de voyage. Le facteur cheval a bâti dans son jardin d'Haute-Rive, en travaillant toutes les nuits de sa vie, son injustifiable palais idéal, qui est la première manifestation d'une architecture de dépaysement. Ce palais baroque qui détourne les formes de divers monuments exotiques et d'une végétation de pierre ne sert qu'à se perdre. Son influence sera bientôt immense. La somme de travail fournie par un seul homme avec une incroyable obstination n'est naturellement pas appréciable en soi, comme le pensent les visiteurs habituels, mais révélatrice d'une étrange passion restée informulée. Ébloui du même désir, Louis II de Bavière élève à grands frais dans les montagnes boisées de son royaume quelques délirants châteaux factices, avant de disparaître dans des eaux peu profondes. La rivière souterraine qui était son théâtre ou les statues de plâtre dans ses jardins signalent cette entreprise absolutiste et son drame. Il y a là, bien sûr, tous les motifs d'une intervention pour la racaille des psychiatres et encore des pages à baver pour les intellectuels paternalistes qui relancent de temps en temps un naïf. Mais la naïveté est leur fait. Ferdinand Cheval et Louis de Bavière ont bâti les châteaux qu'ils voulaient, à la taille d'une nouvelle condition humaine.
Pour imaginer ce qu'ont vécu les dériveurs, il faudrait pouvoir entendre toutes les voix qui les ont accueillis, auxquelles ils se sont mêlés, auxquelles ils ont répondu, pendant de longues journées et surtout de longues nuits. Les voix des exilés espagnols d'Aubervilliers, par exemple, ou celles des Africains du Nord initiant les dériveurs à l'herbe dans les cafés les plus glauques de Saint-Germain-des-Prés, ou celles des Juifs de la rue Vieille du Temple, parlant encore le yiddish, ou simplement les voix et les bruits des halles. La dérive, c'est une technique de rencontre, de voix étrangères. Debord a aimé les voix étrangères, les voix des étrangères, et les étrangères, belles comme leur voix. Il faudrait faire une émission de radio pour en rendre compte, plutôt qu'un film. Jamais un film ne rendra compte de ce qui a été vécu de vive voix. Et c'est cela que disent tous les films de Debord, du premier au dernier. Que quelque chose a été vécu, mais aussi que quelque chose a été perdu.
Les secteurs d'une ville sont à un certain niveau lisibles. Mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible. Comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires.
La dérive, c'est comme un film sans images. Un film dans lequel seuls les sons et les voix ont été importants. C'est comme un film de Debord, en somme. Plus tard, vers 1958, Debord et ses nouveaux complices situationnistes réactiveront la pratique de la dérive. Il projette notamment de dériver à travers les vieux quartiers d'Amsterdam par petits groupes munis de talkie-walkie pour communiquer entre eux. La dérive est toujours du côté de la radiophonie, du côté d'une émission de radio fabriquée en direct. Une émission qui n'en serait plus vraiment une, avec un émetteur et quelques récepteurs, mais qui serait comme un dialogue entre émetteurs. Il aurait fallu faire immédiatement une émission de radio sur Debord et ses complices dériveurs. Maintenant, il est évidemment trop tard. La voix vive, c'est ce qui vire la dérive au compte d'une expérience définitivement clandestine. aussi clandestine que les villes elles-mêmes où elle a eu lieu et qui n'existe plus.
C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Je me bornerai donc à peu de mots pour annoncer que, quoi que d'autres veuillent en dire, Paris n'existe plus.
Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore.
Voix, voyage, voyous et voyelles, quel beau chapitre. Debord a aimé les dérives urbaines comme un peu plus tard les voyages. Mobilité. À l'époque de l'international situationniste, on le trouve fréquemment en Belgique, à Amsterdam, en Allemagne, à Londres ou en Italie. Et plus tard, après la dissolution de l'international situationniste, il vivra pendant un certain temps en Italie. À Florence, il revit les plus belles aventures de l'époque de Saint-Germain-des-Prés, les plus clandestines, les plus illégales.
Je revois celle qui était là comme une étrangère dans sa ville. Chacune est citoyenne d'une véritable cité, mais tu veux dire celle qui a vécu son exil en Italie. Je revois les rives de l'Arno pleines d'adieux.
Cette dernière grande passion est pour une Espagnole, pour l'Espagne. Une histoire tissée de musique, de voix. Dans Panégyrique, il l'appelle l'Andalouse. Il s'éprend d'elle et de sa voix. Elle chante aussi Jorge Manrique et elle lui fait écouter Paco Ibáñez chantant Jorge Manrique. Plus tard, Debord traduit l'estance sur la mort de son père de Jorge Manrique en français. Il se sent chez lui dans cette Espagne du XVe siècle, inébranlablement mélancolique. L'Espagne de Jorge Manrique et de son chant funèbre et sa patrie d'adoption.
J'ai pris ma part des folies de l'Espagne, et là peut-être la plus grande. Mais c'était dans un autre pays qu'avait paru cette irrémédiable princesse, avec sa beauté sauvage et sa voix. Mira como vengo yo, disait très véritablement la chanson qu'elle chanta. Ce jour-là, nous n'en écoutâmes pas plus avant. J'ai aimé longtemps cette Andalouse. Combien de temps? Un temps proportionné à notre durée vaine et chétive, dit Pascal.
À l'âge de 5 ans, Debord perd son père, qui succombe à la tuberculose. Il n'a jamais pu s'en approcher pour éviter la contagion. Les dériveurs, les tristes, aimaient aussi les catacombes, dans lesquelles ils ont failli se perdre une fois au moins. Il rêvait de hanter les couloirs du métro après la fermeture. Les dériveurs ont cherché à s'approprier un Paris souterrain, mythique. Ils ont été les derniers, en somme, à tenter de faire revivre le mythe de Paris. Ils ont écrit, avec leurs pieds, le dernier chapitre des mystères de Paris. Et comme de juste, personne ne s'en est aperçu. Ils ont eu le goût de la mobilité, de la liberté. Ils ont été les néo-nomades de Paris et de quelques autres villes. Les sociétés nomades ne connaissent pas l'écriture, qui est une invention d'agriculteurs, comptables, de propriétaires. Leur richesse, elles les dépensent immédiatement, sans compter, sans comptabilité, sans mise en mémoire. Potlatch. De la même manière, les nomades n'ont pas d'État, n'en veulent pas. Seul compte le clan, l'engagement de vive voix, la parole donnée. Il existe un rapport mystérieux entre la liberté et la voix, que les nomades connaissent bien, comme la chevalerie d'ailleurs avant sa mise au pas, ou comme les gitans. Rien n'a été plus important pour Guy Debord que sa liberté qu'il a voulu absolue, comme on le dit de la monarchie. Une liberté déliée de toute obligation. Jamais de contrat, jamais de signature. On pourrait presque dire que Debord n'a signé que de sa voix. Cela ne laisse que peu de traces, mais beaucoup de chance à la mobilité, au passage.
Pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando
la rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que je s'aimais, ô toi que le savais.
Il faudrait une émission sur la voix de Debord pour en faire entendre la mélancolie. Qu'est-ce qui a été perdu ? L'enfance, peut-être. Il n'en est jamais sorti. Il s'est voulu enfant perdu, et les enfants perdus ne reviennent jamais de leur enfance. Les enfants perdus ne sont pas des enfants prodiges. Ils ne reviennent pas, ni à leurs parents, ni à personne. Ils gardent le goût du jeu, ils ne deviennent jamais adultes, ils restent libres, ils refusent le travail, la mise au pas. Ils font le deuil du monde parce qu'ils en refusent les règles et les contraintes.
Il n'y aura pour moi ni retour, ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais.
En tout cas, la mélancolie est là, dès les premiers films. Elle se lit et surtout, elle s'entend. Tout commence et finit avec elle. Deuil du monde.
Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
Beaux enfants, l'aventure est morte.
Bernard, Bernard, cette verte jeunesse ne durera pas toujours.
Bernard, que prétends-tu dans le monde ? Y vois-tu quelque chose qui te satisfasse ? elle fuit comme un fantôme qui, nous ayant donné quelque espèce de contentement, pendant qu'il demeurait avec nous, ne nous laisse en nous quittant que du trouble. Bernard, Bernard, disait-il, cette verte jeunesse ne durera pas toujours.
La radicalité des thèses de Debord, développée par exemple dans la société du spectacle, mais aussi la radicalité de ses pratiques, de son art de vivre, viennent de là, de ce deuil du monde, de sa mélancolie. Il est d'emblée l'enfant perdu, par qui ou pour qui. Et donc, perdu pour perdu, celui qui n'a plus rien à perdre, et celui qui ne doit rien à personne. Il ne devra jamais rien à personne. C'est ce que beaucoup n'ont pas accepté.
Il n'y aura pour moi ni retour, ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais. Tout au long des années qui suivirent, des gens de 20 pays se trouvèrent pour entrer dans cette obscure conspiration aux exigences illimitées. Combien de voyages hâtifs, combien de longues disputes, combien de rencontres clandestines dans tous les ports de l'Europe.
À l'aventure Les Tristes succède dès 1957 l'aventure situationniste. C'est l'aventure de la dernière avant-garde. Ou la dernière aventure de l'avant-garde, bien résolue cette fois à dépasser l'art, quitte à se dissoudre pour y parvenir. Dissolution. C'est ce qui arrivera à l'international situationniste vers 1971. Guy Debord n'a aucun goût pour les défilés d'anciens combattants arborant fièrement leurs décorations. Mais pour en arriver là, il aura tout d'abord fallu en découdre avec les artistes, prendre congé d'eux, ne plus leur céder du terrain, ne plus leur concéder d'exposition, éternellement ultime. Il faudra réactiver les explorations urbaines inventées par les lettristes, et surtout inventer un nouvel art de vivre, un nouveau savoir-vivre, faire passer l'art dans la vie.
Cet air d'avoir été bien au-delà des choses, cette pensée assurée qui dénotait le long des tours des parcours inutiles, alors, que faire ? L'art, les mondanités, vous pour qui le nom d'Henri Michaud, la religion, la drogue, l'opium des peuples, la carte du parti, gros Louis comme devant, la jeunesse, Marie-Chantal, Marie-Salope, le jeu, par 2-0, l'amour et ses méfaits, la vitesse, James Dean, les bonnes affaires, le Suez, la pêche à la ligne. L'international lettriste rembourse les modes de vie, même ceux commencés ailleurs.
Pour les églises, 4 solutions différentes ont été avancées et reconnues défendables jusqu'au jugement par l'expérimentation qui fera triompher promptement la meilleure. Guy-Ernest Debord se déclare partisan de la destruction totale des édifices religieux de toute confession, qu'il n'en reste aucune trace et qu'on utilise l'espace. Gilles Givolman propose de garder les églises en les vidant de tout concept religieux, de les traiter comme des bâtiments ordinaires, d'y laisser jouer les enfants. Michel Bernstein demande que l'on détruise partiellement les églises, de façon que les ruines subsistantes ne décèlent plus leur destination première. La tour Jacques, boulevard de Sébastopol, en serait un exemple accidentel. La solution parfaite serait de raser complètement l'église et de reconstruire des ruines à la place. La solution proposée en premier est uniquement choisie pour des raisons d'économie. Jacques Fillon, enfin, veut transformer les églises en maisons à faire peur, utiliser leur ambiance actuelle en accentuant ses effets paniques. Tous s'accordent à repousser l'objection esthétique, à faire taire les admirateurs du portail de Chartres. La beauté, quand elle n'est pas une promesse de bonheur, doit être détruite. Et qu'est-ce qui représente mieux le malheur que cette sorte de monument élevé à tout ce qui n'est pas encore dominé dans le monde, à la grande marge inhumaine de la vie ?
Il faut un nouveau savoir-vivre, qui est aussi un savoir-lutter, un savoir-faire la guerre. Poésie et révolution, l'une n'a d'intérêt que liée à l'autre, dont elle doit prendre la place, et réciproquement. C'est cette conjonction entre poésie et révolution, peut-être impossible, que l'international situationniste aura visé de plus en plus clairement, de plus en plus systématiquement. Conjonction de l'action et de l'expression. On comprend que cela doit passer par la voix, par la parole plutôt que par des plaquettes de poésie imprimées chez des éditeurs d'avant-garde. Et c'est alors qu'arrive mai 68, jour de colère et de liberté, que les situationnistes contribuent de façon décisive à transformer en une fête, en un moment de réinvention de la vie quotidienne, plutôt qu'en sinistre règlement de compte entre staliniens et gauchistes. Les situationnistes n'ont jamais pratiqué l'art de l'embrigadement et du service d'ordre. Mais ils ont donné à mai 68 un style, une voix. Ils lui ont donné son insolence, une parole inouïe. En mai 68, les mots d'ordre, situationniste, mais ce sont plutôt des mots de désordre, sont dans la bouche de tout le monde et écrits sur tous les murs.
Vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Prenez vos désirs pour la réalité. À bas le crapaud de Nazareth. Soyons cruels.
Mai 68, c'est un moment où l'impossible conjonction entre poésie et révolution se réalise, peut-être, de façon fugitive, éphémère, mais réelle. Un moment où parole et action se portent l'une l'autre, où les individus retrouvent leur voix, leur liberté.
Le désir reconnu du dialogue, de la parole intégralement libre, le goût de la communauté véritable, avaient trouvé leur terrain dans les bâtiments ouverts aux rencontres et dans la lutte commune. Les téléphones, qui figuraient parmi les très rares moyens techniques encore en fonctionnement, et l'errance de tant d'émissaires et de voyageurs à Paris et dans tout le pays, entre les locaux occupés, les usines et les assemblées, portaient cet usage réel de la communication.
Pour que mai 68 ait eu lieu, il a suffi en somme de quelques émissaires, de quelques voyageurs, de quelques nomades et de quelques vandales disposant de téléphones. Il a suffi de voix qui passaient, qui franchissaient les obstacles. Avant de passer et de disparaître à leur tour, cela ne pouvait durer, cela devait disparaître. Le mai 68 de Debord est inséparable de sa disparition, de la dissolution de ce qui a eu fugitivement lieu. Croyez que c'était très beau, mais cela ne pouvait durer. Croyez que c'était très beau, parce que ça ne pouvait durer.
C'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde. Dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que très bientôt, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil à ce qui a été. C'est une charge qui part lentement, accélère sa course, passe le point après lequel il n'y aura plus de retraite, et va irrévocablement se heurter à ce qui paraissait inattaquable, qui était si solide et si défendu, mais pourtant destiné aussi à être ébranlé et mis en désordre. Voilà donc ce que nous avons fait lorsque, sortis de la nuit, nous avons, pour une fois de plus, déployé l'étendard de la bonne vieille cause et avancé sous le canon du temps.
Mai 68, les voix perdues. Il fallait être sur place pour les entendre. Mai 68 n'a débouché sur aucune œuvre, sur aucun monument. Pas de livre, pas de film. L'art était passé dans la vie, dans les combats. Il était dans les bouches, dans les cris, les colères, ou sur les murs. Et aussi dans quelques chansons détournées. Se réapproprier les formes dominantes de communication. Se réapproprier les voix.
Comme grêle, grenades et gaz chlorés, nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons!
Cependant, Debord a écrit de plus en plus, même au cours des dernières années de sa vie, entre 71 et 94. Lui qui a désiré si obstinément la transparence et l'immédiateté, lui qui a été, à plus d'un titre, un homme de parole, a fini par écrire des livres, et certains sont très beaux. Comme si, après le rêve de la communication réinventée qui s'incarne fugitivement dans mai 68, il n'y avait plus de place pour la voix, le dialogue. L'emprise de la société du spectacle n'a cessé de progresser, de s'étendre. Elle finit par investir les derniers espaces de liberté, les villes les mieux faites pour lui résister. Elle oblige ceux qui entendent lui résister à cultiver de plus en plus systématiquement l'art de l'exil. Car ses livres, de toute évidence, ne sont pas faits pour dialoguer. Ils ne l'ont jamais été, ni d'ailleurs ses films. D'abord écrit ou film pour ceux à qui il ne parle pas, ceux à qui il ne s'adressera jamais de vive voix. Autant dire qu'il écrit non pas pour eux, mais contre eux. Il parle à ses complices, à ses amoureuses, et il écrit ou filme contre ses semblables, pour leur dire que justement ils ne sont pas ses semblables, pour prendre congé d'eux, pour réfuter tout lien entre eux et lui, et aussi tout leur jugement.
Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté, mérite moins que tout autre d'être ménagé. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Qui regarde la pauvreté de leur vie comprend bien la pauvreté de leur discours. Ce sera un sujet d'étonnement, dans un avenir plus libre et plus véridique, que des employés aux écritures du système du mensonge spectaculaire aient pu se croire qualifiés pour donner leur opinion et peser tranquillement le pour et le contre à propos d'un film qui est une négation du spectacle, comme si la dissolution de ce système était une affaire d'opinion. Et je ne fais pas de film pour ceux qui ne comprennent pas ou qui dissimulent cela.
Évidemment, ce n'est pas très charitable, pas très chrétien. Mais il est vrai que Debord n'a jamais cherché à être ni notre semblable, ni notre prochain. Ses livres, il les écrit par goût du jeu et par goût de la guerre. C'est son jeu préféré. Il n'aura jamais cessé de mener contre ce monde qu'il refuse une guerre, ou sa guerre. Tous ses livres et tous ses films sont des actes de guerre, de déclarations de guerre adressées à ses contemporains. Pour Debord, la littérature équivaut à un jeu de stratégie où il importe d'avoir le dernier mot, celui avec lequel on remporte la partie. À ses contemporains, qu'il méprise la plupart du temps parce qu'ils n'ont su ni vivre, ni être libres, il n'a qu'une chose à dire. Vous n'avez aucun droit de regard sur moi. Vos jugements sont nuls et non avenus. Je n'ai rien à vous dire. Je refuse de dialoguer avec vous, de me soumettre à vos règles. Liberté absolue. Vous ne m'entendrez pas. Je ne m'adresserai pas à vous, si ce n'est pour vous réfuter.
Et je crois que pareillement, sur l'histoire que je vais maintenant exposer, on devra s'en tenir là. Car personne, pendant bien longtemps, n'aura l'audace d'entreprendre de démontrer, sur n'importe quel aspect des choses, le contraire de ce que j'en aurais dit. Soit que l'on trouvât le moindre élément inexact dans les faits, soit que l'on pût soutenir un autre point de vue à leur propos.
Panégyrique. A-t-on réfléchi à ce que cela représente, un panégyrique, un éloge sans réserve de soi, dans une époque qui ne semble plus connaître d'autres passions que celle de la soumission la plus absolue à l'opinion. Une époque dont les progrès en démocratie ou en idiotie télévisuelle permettent désormais à presque tout le monde de se soumettre au suffrage de l'opinion et accessoirement à l'audimat. Un panégyrique, c'est de l'insolence à l'état brut, de la vraie. C'est un acte de défi et de liberté, une façon de refuser à autrui tout droit de regard sur soi. Célébration d'une singularité, d'une souveraineté.
Je ne me suis identifiée qu'à moi-même.
Quant à moi, je n'ai jamais rien regretté de ce que j'ai fait et j'avoue que je suis encore complètement incapable d'imaginer ce que j'aurais pu faire d'autre, étant ce que je suis.
Au milieu de l'hiver de 1988, à la nuit, dans le square des Missions étrangères,
une chouette reprenait obstinément ses appels, trompée peut-être par le désordre du climat. Et l'insolite série de ses rencontres avec l'oiseau de Minerve, son air de surprise et d'indignation, ne m'ont point du tout paru constituer une allusion à la conduite imprudente ou aux différents égarements de ma vie. Je n'ai jamais compris en quoi elle aurait pu être autre, ni comment on devrait la justifier.
Pas de compromis, pas de négociation. Ne jamais traiter avec l'ennemi, ne jamais se rendre, ne jamais revenir. Ni retour, ni réconciliation. Les rapports de Debord aux autres sont tissés de passion, de dons, de défis, de vie ou de rien du tout. D'indifférence, de mépris. Il a beaucoup aimé et pour cette raison, il a aussi beaucoup rompu. Pour préserver sa liberté et obliger ceux avec qui il rompait à en faire de même. Il a tout donné à celles et ceux qu'il a aimés, et il a tout reçu d'eux. Il n'a rien voulu des autres, et ne leur a rien donné, ne leur a pas parlé. Sa parole, sa voix, seuls ses proches l'ont entendu. Eux seuls pourraient témoigner de ce que fut sa présence. Beaucoup de gens prétendent avoir connu Debord, mais lorsqu'on les interroge vraiment, on s'aperçoit qu'au mieux il leur est arrivé de l'entrevoir dans un café, ce qui ne les empêche pas aujourd'hui de témoigner. Il y a même des revues spécialisées dans le non-témoignage sur Debord et le situationnisme. Et ceux qui ont été ses amis et ses complices continuent de refuser à paraître, à comparaître, comme par fidélité à une parole donnée, reçue. Peu de gens ont connu Debord, peu de gens ont entendu sa voix. C'est quand même autre chose.
C'était l'atelier de création radiophonique, la rediffusion de Guy Debord, Ni retour, ni réconciliation, par Vincent Kaufmann. Avec les voix d'Anouk Grimbert, Judith Magre, Bernard Gabé et la voix de Guy Debord. Équipe de réalisation, Marie-Thérèse Ferrand, Georges Sautour, Dimitris Capolan et Serge Ristich. Une émission écrite et réalisée par Vincent Kaufmann. Nouvelle apparition de l'atelier dimanche prochain avec Je ne suis pas seul, il y a les mots, un essai radiophonique de Johanna Grudzinska et Florence Lazare. Couverture tissée de rêves et de lucioles. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission, nous écrire, vous inscrire à notre lettre d'information. Consultez et participez au blog de l'atelier sur franceculture.com. Voilà, fin de l'atelier. Une émission proposée par Philippe Langlois et Franck Smith. C'est tout, c'est fini. Mais rassurez-vous, la nuit se poursuit, longtemps, en terrain conquis.